Avant d'attaquer l'actualité de Art Attack, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours artistique?
Mon parcours artistique, ben, ça a toujours été Art Attack. Moi, j'ai commencé à 16 ans en adolescent boutonneux et maigrichon avec Art Attack et je suis à 32 ans toujours dans Art Attack. Donc moi, mon parcours il est très simple, c'est que bon, ben, j'ai eu 2-3 groupes en parallèle, mais j'ai jamais réussi à faire quelque chose de sérieux en me dispersant dans mes idées sur plusieurs groupes. Donc je suis finalement resté dans Art Attack à temps complet.
D'accord.
Tout simplement.
Alors, l'autre question, c'est pourquoi dans tes jeunes années, le jeu de la guitare?
Pourquoi je voulais faire de la guitare?
Ouais.
Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'avais pris une très très grosse claque en découvrant l'univers du metal vraiment avec Master of Puppets et donc Metallica, qui a bouleversé beaucoup de musiciens, hein, mais moi qui a changé ma vie clairement cet album, et cet album est très porté guitare, donc du coup ça m'a donné vraiment envie de faire de la gratte. Et deuxièmement, j'étais un adolescent boutonneux et célibataire, comme je te disais tout à l'heure, donc je me disais si je fais de la guitare, ça va être un peu cool pour les gonzesses, quoi. Donc vraiment, ça a été aussi un élément, et puis c'est un petit élément, parce que vraiment la priorité, je vais pas te mentir, c'était vraiment de se faire plaisir dans un groupe. Je trouvais ça trop beau, trop stylé, et puis j'avais envie de créer des choses, et je trouvais ça exceptionnel dans la musique qui est pas de limite, en fait, tu vois, vraiment d'arriver dans un univers où tu pouvais faire ce que tu voulais, et voilà pourquoi j'ai fait de la gratte.
D'accord. Et le côté séduction, ça a marché ou pas?
Ouais, ça a marché, ouais. Ça a marché parce que c'est vrai qu'au début, j'avais pas mal de copines qui voilà, c'était le côté musicien, ça leur plaisait bien, hein, on va pas se mentir.
D'accord. Là, actuellement, avec justement, comme je disais, avec la maturité, avec l'âge, quels seraient encore tes musiciens de référence?
Mes musiciens de référence, ceux que j'aime le plus, ça reste, dans le métal, ça va être plutôt des Dave Mustaine, plutôt du James Hetfield, ça va être du Scott d'Anthrax, ça va être des gens comme ça, des mecs qui ont su rester droits et performants toute leur vie, qui ont inventé quelque chose, qui ont mis leur âme dans un projet. Après, bon, il y a plein de chanteurs que j'adore, hein, Ménard de Tool et de Perfect Cycle, je sais pas, là tu me prends un peu au dépourvu. Sinon, musicien, il y a beaucoup de rap US que j'adore, il y a beaucoup de grands artistes de la musique classique comme Bach aussi que j'écoute de temps en temps et qui ont changé la vision de la musique dans le monde entier. Donc oui, c'est très vaste, en fait. Mes influences, elles sont très vastes. Et les gens que je respecte dans le milieu de la musique sont très, très, très nombreux.
D'accord, parce que les trois musiciens métal que tu m'as cités, ils ont démarré avant que tu naisses, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
D'accord.
De ma génération, en fait, j'avais pas de claque monumentale comme j'ai eu avec la musique d'avant, quoi, tu vois, avec même mes groupes préférés, ça va être des groupes comme Supertramp, tu vois, ou des trucs qui existaient à l'époque, ou Deep Purple, tu vois, mais on va pas être sur des trucs. À l'époque, moi j'ai débarqué à l'époque de Marilyn Manson, de Limp Bizkit et tout, mais c'était pas forcément tu vois ce que je préférais le plus. Je trouvais ça sympa, mais je trouvais pas ça aussi fou artistiquement que les personnages que j'ai cités, quoi.
D'accord, ok. Tu joues sur quoi comme guitare?
Alors nous, on est endorsé par la marque ESP.
D'accord.
C'est ESP guitare.
Belle
marque. Donc les Japonais. Ouais, très belle marque. Et c'est un rêve de gosse parce que voilà, tous les mecs que je t'ai cités jouent sur ESP, quoi, au final, tu vois. Dave Mustaine, il a fait son temps sur ESP et surtout Metallica. Donc c'est un plaisir. J'ai une dizaine de grattes d'ESP, justement. J'ai des Flying V, j'ai des Explorer, j'ai des Eclipse, j'ai tout un tintouin de gratte ESP, et c'est un honneur de jouer avec cette marque parce que c'est pour moi la meilleure guitare qui est dans le métal, parce que c'est un compromis de puissance, de précision, de tranchant, de tout ce que tu veux, avec les micros MC ou c'est mon Duncan. T'as toujours un son fabuleux, c'est hyper stable, et surtout, il n'y a jamais de problème avec les ESP, quoi. Je vois plein de gars qui galèrent en tournée parce que il y a toujours un problème d'électronique, de mécanique ou quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais eu de problème avec une ESP en tournée, quoi.
D'accord. Aller jusqu'à un modèle signature, ça serait un kiff ou c'est pas un truc qui t'intéresse?
C'est pas un truc qui m'intéresse parce que je trouve ça totalement inaccessible, tu vois.
D'accord.
Parce que moi, je me vois encore, ce qu'on est vraiment, quoi. On est un petit groupe du sud de la France, alors il nous arrive plein de belles choses, mais pour moi, un modèle signature, c'est quand tu t'appelles James Hetfield, ou voilà, c'est pas, on n'est pas du tout dans ce délire-là encore, et on ne sera pas avant très très longtemps. Si un jour on l'est, tant mieux. Mais ouais, c'est même pas abordable pour moi tellement c'est loin, quoi.
Ok. La tendance de rajouter des cordes, c'est un truc qui t'intéresse ou pas du tout?
Pas du tout, parce que déjà, je trouve ça pas hyper confortable les râpes à fromage. Après, j'aime bien certains groupes qui utilisent plus de cordes que nous, genre Meshuggah, j'adore le son qu'ils ont, tu vois, donc y a pas de problème avec le son que c'est. Mais je suis pas encore arrivé au bout de mes possibilités avec Heart Attack, avec la 6 cordes. Après, on a quand même, je te dis des conneries, parce qu'on a déjà pensé avec Cesari, avec Chris Cesari, mon guitariste, à utiliser peut-être une 7 cordes, une 8 cordes sur un titre du prochain album. Donc oui, en fait, je dis des bêtises, on y a pensé, mais c'est pas du tout une priorité. En tout cas, je pense qu'on passera jamais sur des 7 cordes, ou alors dans très très longtemps, quoi.
Ok, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des musiciens.
Ouais.
Votre dernier album, c'était Résilience en 2017.
Ouais.
Je sais pas si c'était un titre annonciateur de la suite, mais c'était un mot important pour les depuis 2 ans. A posteriori, qu'est-ce que tu retiens de cette période autour de Résilience?
Autour de Résilience?
Ouais.
Qu'est-ce que je retiens? Premièrement, je retiens la période dans laquelle il a été construit cet album, c'est-à-dire une période au niveau de l'actualité qui était catastrophique en France avec le terrorisme. Et nous, on a eu pas mal de copains qui étaient présents. Donc nous, on a vécu ça avec les copains qui étaient présents au Bataclan ou à Nice, parce qu'on est de Cannes et Nice. Mmh. Donc on a été touché par ça et on avait envie d'écrire un album là-dessus sur la capacité de l'être humain à se relever après un traumatisme psychique, psychologique ou physique. Donc voilà, je retiens ça de cette période. Après, la période qui a suivi a été beaucoup plus belle et positive parce que cet album nous a fait connaître en France, surtout un petit peu international, mais surtout en France, et on a pu, grâce à cet album, réaliser nos rêves, c'est-à-dire tourner avec Megadeth, tourner avec Rammstein, tourner avec Exodus, tourner avec Death Angel, j'en sais rien, plein de groupes comme ça. Ça nous a permis de jouer sur les plus gros festivals européens comme le Hellfest, comme le Motocultor, comme le Metal Days en Slovénie, comme le Resurrection Metal Fest en Espagne. Donc c'est vrai qu'on a réalisé notre rêve en jouant avec tous les artistes qu'on avait sur nos posters, sur nos murs quand on était... On était des petits adolescents boutonneux, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'était une période de composition pas facile, et on s'en rappelle tous, mais ça a découlé de quelque chose d'extrêmement lumineux, quoi.
D'accord. À partir de quel moment vous avez commencé à bosser sur Negative Sun, et quel était le projet, ou si vous aviez une idée directrice pour ce nouvel album?
En fait, on a commencé à composer Negative Sun en 2019. On a fait un seul titre, un Take Your Pride Back. Et en fait, on a continué la composition pendant la pandémie, pendant le premier confinement, si tu veux. Les gens se rappellent pas forcément, mais le premier confinement, c'était quand même particulier. Il y avait un climat très anxiogène. Il y avait, on voyait le monde se casser la gueule encore une fois. Ça, c'était pas hyper joyeux. On était entouré de gens dépressifs et compagnie. Et nous, on a eu envie d'utiliser cet album et la composition de cet album comme un défouloir, comme un exutoire où on mettait toute notre agressivité, notre frustration au niveau du riffing, au niveau des riffs, au niveau des parties chants. Donc, c'est vrai que cette pandémie a joué énormément dans la composition de l'album parce que ça a fait naître un espèce de monstre Negative Sun, c'est-à-dire un album beaucoup plus sombre qu'avant. Avant, on était sur la résilience, là, on est sur quelque chose d'extrêmement sombre. Negative Sun parle quand même du côté le plus sombre et plus noir de l'être humain face à l'adversité. Donc voilà.
D'accord. Finalement, entre les deux albums, il y a 4 ans, on peut considérer que c'est un peu long. C'est beaucoup lié au Covid, ou c'est parce que c'est un peu votre rythme naturel?
Alors nous, on n'a pas un rythme extrêmement rapide. Hein. C'est vrai que moi, je compose un petit peu tous les jours, si tu veux, mais les riffs, bon, bah, y en a pas mal qui sont mauvais, faut le dire. Donc au final, on garde que ce qu'il y a de meilleur. Donc c'est vrai que la période de compo, on aime bien prendre notre temps pour arriver aux compositions les plus matures possibles, quoi. Et avec la meilleure osmose, la meilleure efficacité. Donc souvent, c'est vrai que ça prend du temps. En plus, là, il y a eu la pandémie, donc je dirais que l'album, on aurait pu le sortir 2-3 ans après la sortie de Résilience, mais pas bien plus tôt, hein. Donc la pandémie, ça nous a bouffé un an et demi, quoi, c'est tout. Mais c'est vrai que nous, on est plutôt lent. On préfère faire un bon album tous les 4 ans que faire plusieurs merdes tous les ans, quoi.
C'est plutôt ça, effectivement. Comme tu disais, tu peux un peu nous décrire ta routine de composition?
Ouais. Alors, donc ouais, comme je te disais, donc moi je fais les riffs en amont. Donc parmi mes riffs, bah, y en a qui sont nuls, y en a qui sont un peu moins nuls. Et c'est Chris Cesari qui va m'aider à les sélectionner. C'est mon deuxième guitariste qui lui va être plus dans les arrangements, dans la mélodie, dans les atmosphères des morceaux. Donc on compose tous les deux en grande partie, je dirais 75%. Et le reste, en fait, on va proposer nos schémas, nos structures et nos morceaux à Christophe Icard à la batterie, à William Ribeiro à la basse. Et on va se retrouver donc à faire un espèce de chemin croisé avec tout le monde pour faire la meilleure compo possible. Donc c'est comme ça qu'on compose. Sur cet album-là en particulier, il y a une petite différence. C'est qu'il y a pas mal de parties de batterie qui ont évolué pendant le studio. Et il y a eu pas mal d'arrangements qui ont évolué aussi pendant le studio parce que Art Music, chez Sébastien Camille dans le sud de la France, dans notre studio de prédilection qu'on connaît depuis 10 ans, et ben on a tellement une bonne entente entre nous, on se marque tellement tout le temps et on s'éclate tellement tout le monde ensemble qu'il y a un esprit, au fur et à mesure des années, un esprit de création qui s'est développé où on arrive aussi à composer un petit peu pendant le studio.
D'accord, effectivement, voilà, ouais. C'est assez inhabituel, surtout pour les parties de batterie où souvent les groupes commencent par ça. Donc pour poser les bases et donc modifier les choses alors que tout le reste n'est pas encore en boîte, c'est compliqué.
Ouais.
Est-ce que vous êtes du genre à composer énormément et à faire un gros tri? Ou finalement sur la dizaine de titres qui apparaissent, est-ce les dizaines de titres que vous avez finalisés vraiment?
Non, nous on est flemmards. Hein. On va faire les 10 titres à fond. On va tout donner, toutes nos tripes sur les 10 titres, mais c'est tout quoi. On va pas commencer à faire 50 morceaux pour en choisir 10, voilà, on n'est pas du tout dans ce style-là. Je sais qu'il y a des groupes qui se débrouillent très très bien comme ça, et qui font des trucs monstrueux avec des sélections sur 60 morceaux, mais nous, les 10 morceaux qu'on a composés, on les a mis sur le disque. Hein.
D'accord, est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas finalisées ou des idées que vous trouviez pas la clé de l'époque Résilience qui apparaît sur Negative Sun ou c'est du tout neuf?
Ouais, je trouve qu'il y a une cohérence au niveau de l'écriture, surtout au niveau de l'atmosphère qu'on a voulu mettre dans cet album Negative Sun et au niveau de l'imagerie, au niveau de la direction qu'on a prise sur l'ensemble des paramètres, le son, le mix, le mastering, les prises, les amplis, les guitares, l'artwork, le dessin, le fond de scène qu'on va mettre sur la tournée. Et il y a une cohérence qu'on n'avait pas du tout sur Résilience. Résilience, on s'est occupé à 99% de la musique et pas forcément de l'atmosphère que pouvait se donner ce disque. Donc on est très fiers hein, de ce disque, hein. J'ai pas peur de le dire, hein, même si ça fait un peu prétentieux, mais je suis très très fier de mon petit Résilience. Mais je trouve que artistiquement, on est sur un cran au-dessus sur Negative Sun, parce qu'il y a un vrai message global qui passe, quoi.
D'accord. Peut-être une question qui peut paraître un peu surprenante, mais est-ce que tu pourrais nous dire, un, quelle importance ça a pour vous, et deux, comment vous avez fixé l'ordre des morceaux sur l'album?
Ah oui.
Tu vois la
traque? Il y a une grosse importance parce que c'est d'une part des choix artistiques, hein. Je dirais un gros pourcentage de choix artistiques. Par exemple, à l'intro, voilà, on voulait instaurer une ambiance, c'est pour ça qu'il y a toute une mise en profondeur. Enfin, il y a tout un début de l'album sur le premier morceau, The Rituals, qui est extrêmement calme, atmosphérique, avec des chants un peu ésotériques pour vraiment plonger dans cette ambiance de noirceur qu'on voulait découler sur l'album. Et après, on a des titres un peu plus punchy pour réveiller l'auditeur. Après, sur le milieu, on a The Messenger qui est une grosse cassure en termes de rythme, parce qu'il est beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd, beaucoup plus sombre. Et après, on part sur des titres où on n'en a plus rien à foutre. On a fait ce qu'on pouvait sur l'album, et là, on se fait purement plaisir à 100% sur Bound to This Land, où il y a vraiment un côté hyper primitif, et Negative Sun à la fin, qui est beaucoup plus expérimental. Ou si on avait eu envie de faire un morceau de 15 minutes, comme c'est quasiment interdit de passer à la radio, on l'aurait fait, quoi. Donc voilà, il y a toute une chronologie comme ça qui est artistique, bien sûr. Mais qui va être aussi stratégique pour réveiller l'auditeur, où il va y avoir un morceau un peu plus bourrin, après un peu plus calme, etc. quoi.
D'accord. Autre élément, tu disais l'importance bien entendu du fond, donc là de tout le travail que vous avez fait sur la production et le son, mais l'autre élément important, c'est la forme. D'abord, est-ce que tu pourrais me dire comment vous avez bossé la pochette?
Allô. On a bossé avec Flo de Chromatorium, qui est... Oui, tu m'entends?
Oui, parfait, pardon.
Allô?
Oui.
Ouais, je disais, la pochette, on a bossé avec Flo, qui est un ami, hein, qui avait bossé sur The Resilience. On adore ce gars, hein, qui bosse pour le Chromatorium Studio. C'est devenu un ami, hein, il habite à Rennes et il nous voit souvent en concert quand on passe par là-bas. C'est devenu un ami, et puis c'est surtout quelqu'un avec qui on aime beaucoup travailler d'un point de vue professionnel, parce qu'il comprend de suite ce qu'on veut, en fait. Dès qu'il écoute la musique et dès qu'on lui explique, voilà, on voudrait cette atmosphère, on voudrait un personnage comme ça, on voudrait une personnification du mal, etc. Bah, il comprend de suite. Il comprend vraiment de suite. Et ça va très vite. Des fois, tu bosses avec un infographiste, il va mettre 30 essais avant que tu trouves que c'est pas trop mal. Lui, en 5 essais, déjà, c'est exactement la direction qu'on veut prendre, quoi. Donc voilà, on a travaillé avec Flo pour la pochette. Ça a été évolué, parce qu'en fait, à la base, elle devait pas être exactement comme ça. Il devait y avoir un autre personnage. Et au fur et à mesure du temps qui a passé, on s'est dirigé vers une direction artistique au niveau visuel, qui a fait que finalement le personnage est né il y a quelques mois, en fait, sur la pochette, quoi.
D'accord, ok. Donc, juste pour vous lui systématiquement, il a la musique et vous lui pitchez une idée, ou il travaille sans musique, ou c'est que votre idée
Bah, on lui donne la musique, on lui pitch l'idée, on lui donne une grosse idée, on lui dit ce qu'on veut exactement, et il essaie de faire avec les infos qu'on lui donne, quoi.
Ok. Ok. C'est lui qui avait bossé aussi sur le
sens de résilience.
Non, le logo
c'était il y a très longtemps, et pour tout te dire, j'ai un trou de mémoire sur celui qui a fait le logo. Je me rappelle plus comment il s'appelle. c'était il y a au moins 10 ans, c'est pour ça que je me rappelle plus. Et c'est un gars qui a bossé juste sur le logo, qui a bossé 15 jours dessus, qui est parti et on l'a gardé, quoi. Enfin, je parle du logo de Heart Attack, hein.
Oui, mais c'est ce que je veux dire, avec la figure féminine entre le H et le E, pour
comprendre. Voilà, bah, la figure féminine, c'était à l'époque de Stop Pretending, en fait, c'est la nonne que tu peux trouver sur la pochette du premier album, en fait.
D'accord. Bien entendu, gros truc pour vous, le gros truc pour vous, c'est la signature chez Atomic Fire Records.
Ouais.
Qui est un label qui est de plus en plus important, outre Rhin et qu'il y a Nuclear Blast. Comment ça s'est fait?
Ça s'est fait tout simplement, ça faisait un an qu'on cherchait un label, qu'on avait envoyé des centaines de mails et de mails et de mails pour trouver un label. On n'avait que des réponses négatives ou positives, mais de labels qui étaient un peu moins intéressants que d'autres. Parce qu'en fait, si tu veux, pendant la période de pandémie, faut savoir que les labels avaient moins d'argent pour faire développer des petits groupes comme Heart Attack, parce que nous, on est un petit groupe du sud de la France, hein, faut pas oublier. On n'est pas Gojira. Et donc, ça demande un peu plus de travail de bosser avec qu'avec une grosse machine. Donc, bref.
Vous étiez sur Apatia, non?
Ouais, sur Apatia Records, qui était un label de taille humaine, vraiment français, quoi. Hein. Mm-hmm. Bon, c'était pas une grosse visibilité internationale, hein, faut dire ce qu'il est. Même si Géane faisait un travail fabuleux, le patron du label d'Apatia Records. Ouais. Et donc là, en fait, on a eu un gars qui adore ce qu'on fait, qu'on a croisé lors des tournées, en fait, et qui se trouve être en contact avec Marcus Tiger. Donc Marcus Tiger, pour ceux qui connaissent pas, c'est le patron. C'était le patron pendant 30 ans de Nuclear Blast, c'est celui qui a créé Nuclear Blast. C'est une sommité dans le domaine de l'industrie du disque, métal. Et en fait, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de cette personne-là, de cet intermédiaire qui me dit, bon bah voilà, il y a Marcus Tiger qui vous veut sur son label. C'est comme ça, c'est pas autrement, et il est prêt à tout pour vous avoir, parce qu'il adore ce que vous faites, il écoute ce que vous faites toute la journée, toutes les nuits. Et il veut à tout prix travailler Kurt Attack. Donc s'imagine mon étonnement, moi j'étais comme un fou, j'y croyais pas, et voilà, on a fait la fête, quoi. On a invité tous les copains, on a invité tous les gens qui croient en Kurt Attack depuis le début, alors que bon, il n'y avait pas trop de raisons d'y croire au début, entre nous, et finalement, bah voilà, on a fêté ça, parce que c'était une nouvelle extraordinaire pour un petit groupe comme nous, quoi.
D'accord, et les premiers contacts ou les premiers mois de travail avec le label vous donnent pleinement satisfaction, c'est vrai que c'est une grosse structure. Donc,
est-ce qu'on
va pas se faire bouffer par la machine, c'est plutôt rassurant les contacts que vous avez.
Alors, en fait, oui, les contacts qu'on a pour l'instant, c'est du visio, c'est du Skype, c'est du téléphone, c'est des mails, beaucoup de mails, c'est au moins 3-4 mails par jour, tu vois. Donc c'est énormément de travail. Par contre, l'équipe est extraordinaire. C'est quelque chose qui fait beaucoup écho à ce que je vois dans la musique, c'est qu'à un tel niveau, c'est-à-dire que là, on est en contact quand même avec des mecs qui ont bossé avec Nuclear Blast pendant des années, qui poussent leur vie, tu vois. C'est vraiment des experts en promotion, des experts en production, tout ce que tu veux. Et les mecs sont hyper drôles, hyper sympas, ils sont hyper touchants, ils sont géniaux, quoi. D'un point de vue humain, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer parce que voilà, les types sont font partie du groupe maintenant, quoi. Ils font partie du groupe, ils sont là pour nous aider, ils croient en nous. Et voilà, ça fait plaisir de voir des gens comme ça à ce niveau-là croire en Art Attack, parce que bon bah bien sûr, pas tout le monde a toujours cru en notre groupe, quoi. Et c'est comme ça quand t'as un petit groupe français. T'en as qui t'adorent, t'en as qui te détestent, t'en as qui te chient dessus. Et là, bah, tu vois des mecs qui sont implantés, qui ont fait connaître des hybrides, qui ont fait connaître des groupes monstrueux comme ça, qui croient en toi. Donc c'est extrêmement émouvant, en tout cas. Et donc voilà, ça s'est super bien passé pour l'instant. Là, on a fait un petit clip, là, il y a pas longtemps, qui a fait 100 000 vues en 2 semaines, donc pour nous c'est une grande première, hein. Donc c'est extraordinaire ce qui se passe, et ça se passe, ça pourrait pas mieux se passer, en tout cas c'est impossible.
Super, et ben justement tu me tends le bâton. Vous avez sorti un clip pour Septic Melody et Wings of Judgment.
Ouais.
Donc effectivement très beau clip, très pro, assez impressionnant.
Merci.
Qu'est-ce que tu peux en dire sur l'expérience, comment vous avez vécu ça?
Bah c'était génial, hein, parce que on était dans une période de pandémie, de confinement, où on pouvait pas faire de concert, donc déjà le fait de se voir avec le groupe c'était cool, et puis de se voir dans des conditions comme ça, où là, deux endroits incroyables, les arènes de Fréjus, les arènes romaines, où tu rentres dedans, bah t'as la bouche bée tellement c'est chargé d'histoire et d'émotions, parce que tu te retrouves avec en plein milieu de l'arène, et puis l'Opéra de Nice, un endroit où il y avait quand même Napoléon qui regardait ses petits spectacles le dimanche soir, donc c'est quand même fou. Tu te retrouves dans des endroits comme ça incroyables, avec tes potes, pour des moments où tu sais que bah, ces moments-là, on s'en souviendra toute notre vie, tu vois, parce que bon, c'est pas normal de jouer dans des groupes comme ça quand t'es un groupe de métal.
D'accord, ouais, bien sûr, ouais. Il y a d'autres choses dans les tuyaux de ce côté-là, côté clip, ou?
Ouais, il y a quelque chose qui va arriver dans une semaine, et ça va être très très fort. C'est-à-dire que ça va être encore plus haut en termes de décor, en termes de réalisation, que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc c'est encore un lieu incroyable, et qu'on a eu la chance d'avoir. Et ça sort dans une semaine, et le morceau est très différent de ce qu'on a fait d'habitude. Bah toi tu le connais, c'est The Messenger, peut-être que tu l'as écouté dans l'album.
Oui, bien sûr, ouais.
C'est un morceau qui est très lourd, en fait, qui a un peu moins, le tempo est un peu plus lent, donc c'est ça que je voulais dire, mais en gros il y a une atmosphère qui est beaucoup plus sombre, et qui est très loin du thrash metal au final.
D'accord. L'actualité récente du groupe, c'est aussi donc la date que vous avez donnée à Nantes le 29 avril avec Matt Bryan.
Ouais.
Merci. Quel souvenir a posteriori? Qu'est-ce que t'en gardes?
Ouais, c'était génial, hein, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué là, du coup, avec tout ça, toute cette période. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Bon, la salle était pleine à craquer. Il y avait des cercles pités, des bravards dans tous les sens, hein, comme dans tous les concerts d'Art Attack. Mais j'ai senti ce soir-là une énergie de dingue. À la fin, les retours tombaient dans tous les sens. Je recevais de la bière de partout sur ma gratte. Enfin, c'était C'est un bordel incommensurable et le public breton, enfin nantais, a répondu présent comme d'habitude. C'était une excellente date, surtout avec les copains de Malkayan avec qui on a déjà tourné sur toute une tournée l'Hexagone Trash Alliance 2, qu'on adore. C'est devenu des frères, des amis et on était super contents de les retrouver. Quoi.
D'accord. Pour terminer cette interview, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines qui viennent?
Bah, ce que tu peux nous souhaiter, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est tout simplement de continuer ce qu'on fait, hein, tout simplement. Hein. Nous, on s'éclate dans la musique, de par les rencontres humaines, de par les concerts, de par l'énergie qu'on peut avoir et qu'on peut avoir envie de déverser, de par les claques qu'on se prend des groupes avec qui on joue, voilà, enfin toute cette passion qu'elle continue. Vous pouvez nous souhaiter de continuer à s'éclater dans ce qu'on fait, de faire notre petit bonhomme de chemin, de continuer tranquillement notre route, à faire le plus de concerts possible, à toucher le plus de personnes possible, mais surtout à découvrir des cultures et découvrir l'humain, parce que c'est ce qui nous a manqué le plus au final.
Parfait, bah écoutez, on vous le souhaite, on continuera à vous suivre sur vos réseaux sociaux.
Ouais.
Merci d'avoir pris le temps de nous répondre et puis
merci à toi.
Bonne soirée.
Merci, c'est très gentil, merci.
À bientôt, ciao.
Ciao.